Vous qui venez de l'éther ou de la terre,
des océans et des airs,
chers auditeurs,
bienvenue dans notre audio guide.
Laissez-vous porter
par les ondes. Vous nous entendrez parler des œuvres de Jean-Marie Apriou,
accompagné d'Anna, notre médiatrice,
et de Caroline Chabran, commissaire d'exposition, qui a répondu à nos questions.
Bon voyage !
Essence Radio. La radio qui,
la
te,
radio
fera
qui te fera traverser les éléments.
La radio.
Eau, mise,
water,
mer,
aqua.
Laissez-vous embarquer et guider par le phare.
Derrière le bateau du voyageur, il y a une vague. Vous la voyez ? Juste derrière, là. Pour moi, cette vague, elle pourrait incarner les épreuves. Tout ce qu'il faut traverser pour arriver jusqu'à l'au-delà. Une fois la tempête passée, le calme revient. Mais le périple continue. On peut voir des marques de semelles aussi. Regardez, sur l'arrière de la vague. C'est l'artiste qui les a laissées. Je crois qu'il a voulu marquer son passage dans son œuvre. Comme notre passage sur la Terre.
Caroline Chabran, curatrice.
J'ai une œuvre préférée et ça convient parfaitement à l'extrait qu'on vient d'entendre, parce que c'est la vague aussi. Parce que je pense que c'est... Techniquement, elle est hyper belle. Effectivement, on voit les traces de l'artiste. Et pour moi, il y a aussi beaucoup de références à l'histoire de l'art, notamment à l'histoire de la peinture. Et du coup, ça permet de rattacher sa pratique actuelle à toute une histoire. Et puis, effectivement, c'est celle qui nous emmène en voyage.
Vous avez peut-être remarqué comme moi que dans ces deux premières salles, on peut voir trois grottes. Ou alors des cavernes. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a des stalagmites et des stalactites. Et il y a à l'intérieur aussi deux mains humaines. On dirait qu'elles sont fondues à l'intérieur. Ça fait penser aux peintures rupestres. Vous savez ce qu'on trouvait à la préhistoire ? C'est un peu la trace indélébile du passé. Moi, ça me fait penser à des souvenirs figés. Je pense qu'on peut interpréter ça comme la mémoire des voyageurs qui se fossilisent au fur et à mesure de leur périple. Je pense que c'est surtout la mémoire de l'astronaute. Celui qu'on voit dans la pirogue au tout début.
L'histoire a commencé avec une barque, le voyage continue. C'est très logique, hein, le travail de l'artiste. Donc le personnage, il commence tout seul. Et au fur et à mesure qu'il avance, il rencontre peut-être d'autres personnes.
Anna, médiatrice.
Et on s'approche au fur et à mesure de la Terre. On a passé le phare, donc ça veut dire qu'on voit la Terre qui n'est pas très loin. Donc, il y a plus en plus de personnes, comme s'il y avait une petite société, une petite communauté qui commençait à se créer.
Vous voyez ce grand relief dès qu'on passe la porte ? Difficile de le manquer avec sa taille et son ambiance à la fois malaisante et fascinante. Plus on le regarde et l'analyse, on remarque plusieurs différents détails. On dirait un monde à part, une sorte de purgatoire. Comme peut le représenter le personnage avec des cornes de bouc, un trait du diable. Cependant, ce que l'on voit dans le ciel sont de grandes étoiles fantaisistes. On a l'impression d'un lieu hors temps, où la vie et la mort, et l'enfer et le paradis se mélangent. On dirait également que l'œuvre a d'abord été créée pour être repliée sur elle-même, un peu comme un moule. Car ce qui est en relief d'un côté est enfoncé plus ou moins de l'autre.
Donc comme on a la partie ici, si on décide que ça, si on imagine que ça c'est la surface de l'eau, on a le reflet qui est en bas. Et si vous regardez, alors c'est pas le cas à tous les endroits, mais la plupart du temps c'est un positif négatif. Pas partout, parce que à certains endroits l'artiste il a joué un peu avec le moule.
La seule exception à la règle est la grande forme de chou romanesco, ressemblant à une météorite qui va ou pas aller s'écraser. Pour moi, ça peut vouloir dire qu'on a presque tous des impressions et des ressentis différents, mais lorsqu'une catastrophe arrive, on peut toujours dire ce que l'on veut, mais le résultat factuel restera toujours le même. Si j'ai choisi cette œuvre, c'est parce que j'aime quand il y a plein de détails, et qu'on doit revenir plusieurs fois sur l'œuvre pour découvrir à chaque fois de nouveaux éléments.
Si j'étais un élément,
je serais
L'eau par souquelle rafraîchit les gens.
Je serai la terre comme la Pachamama.
L'eau, parce que je suis mille.
Si j'étais un élément, je serais
l'eau, car on ne peut pas vivre sans moi.
Si j'étais un élément, je serais
l'eau, parce que je suis comme un poisson.
Si j'étais un élément, je serais l'air.
Je serais le feu pour me rappeler l'importance du soleil.
Pour voler au-dessus des nuages.
L'air pour voler et aller où
l'éther,
je veux.
L'éther parce que je suis aussi visible qu'invisible.
L'éther parce que je me sens complexe à définir. Alors cette salle, cette petite salle, fait la transition entre l'eau et la terre qu'on va voir dans les salles d'après. Et la transition se fait vraiment par cette forme qui est ici au milieu de la salle. Qu'est-ce que c'est ?
Je vois des roses et j'ai un peu des épines, mais il n'a pas l'air très très en forme.
Ce qui m'a frappé avec cette œuvre, c'est que comparé aux autres sculptures précédentes, dans lesquelles on ressentait une alchimie entre la nature et l'homme avec un grand H, là on peut observer une culture basée sur la flore, avec du maïs, des coquelicots, ainsi que des roses. Mais surtout, en fait, on voit que ces fleurs ont une histoire. Une histoire, chacune, propre à elles. Elles sont jamais placées par hasard, mais on voit toujours sur la direction artistique de l'artiste sur cette œuvre qu'il y a une ressemblance sur les œuvres précédentes, ainsi que les autres qui arrivent. C'est une salle, en fait, qui fait transition entre l'eau et la terre. On voit au début, et surtout, que les racines du rosier, on voit qu'elles viennent de l'eau, avec les algues, ensuite qu'elle monte avec des coquelicots, les roses, pour arriver jusqu'à la terre.
Alors l'artiste, il se dit, comme on dit que la vie humaine, elle est née dans l'eau, bah sûrement la vie végétale, elle est née dans l'eau aussi. Donc l'origine, les racines de ce rosier, ce sont des algues.
C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'homme que j'ai choisi cette œuvre.
Perdez-vous dans le champ de maïs.
On a choisi de vous parler de l'œuvre Crossing the Parallel Worlds.
Alors l'artiste, pour parler de la terre, parce que là on est passé dans l'élément terre,
Anna, médiatrice.
Il a choisi le maïs. Il aurait pu parler de la terre de plein d'autres manières différentes. Il a choisi le champ de maïs.
Moi, je vois un homme coincé dans du maïs et des branches. Je trouve que cet homme est courageux. Il est enfermé, mais il ne perd pas espoir. C'est un voyage. Et pendant ce voyage, j'ai réalisé que la nature humaine a besoin de spiritualité pour supporter ce qui est difficile.
Vous pouvez faire le tour, vous pouvez vous approcher. Venez, venez de ce côté, on les voit mieux.
Moi, cette œuvre me rappelle la période de l'enfance.
Les deux personnages au milieu, les deux têtes au milieu. Alors l'artiste, il nous raconte que quand il était petit, avec ses amis, il courait dans les champs de maïs.
Les deux personnages jouent à cache-cache et ils ne pensent à rien. Moi, ce champ de maïs, il me fait penser à la vie. Car quand on se perd de vue dans un champ de maïs, c'est dur de se retrouver. Un des personnages semble reculer à la vue de l'autre. En faisant ça, il s'enfonce dans le champ et donc dans l'inconnu.
Dans cette salle, j'ai choisi de vous parler des deux criquets, installés symétriquement dans les ouvertures. Ils m'ont touché par leur présence discrète et en retrait. Ils sont généralement considérés comme annonciateurs de mauvaises nouvelles, ce qui expliquerait l'aspect morbide des autres œuvres de la salle. Mais moi, je trouve leur présence rassurante.
Et les criquets, les sept plaies d'Égypte aussi, l'invasion des criquets qui viennent attaquer les hommes avant qu'ils arrivent au nirvana, au paradis. Et les criquets, c'est un animal hyper dangereux, et dans la réalité aussi en fait. Il y a des invasions de criquets en Afrique, notamment, ou en Amérique du Sud, qui dévastent les champs, quoi. Et du coup, ça crée la famine. Mais qui peuvent aussi paraître comme des gardiens, et c'est ça qui est bien.
Caroline Chabran, curatrice.
En fait, t'as toujours plusieurs lectures dans une œuvre. Il y a celle proposée par l'artiste, il y a celle que nous, on veut donner en créant cette histoire, et il y a celle que vous vous appropriez.
Comme le scarabée avant, ces insectes jouent selon moi le rôle de psychopompe. Ce sont les dieux qui accompagnent les âmes à travers la mort, assurant que celle-ci n'est pas une fin, mais une renaissance, une transformation. Preuve en est, après la terre, on passe à l'élément suivant.
Moi, j'avais envie de vous parler de cette œuvre. Celle-là, juste en bas, là, qui s'appelle The Breath of Sun. C'est du maïs tombé, et on voit aussi des têtes au milieu de ce maïs. Je pense qu'ils sont morts, mais je suis contente, parce que même s'ils sont morts, ils sont face au ciel. Ils sont figés dans une position qui me fait penser à de la contemplation. Ils pourront regarder les étoiles pour toujours. Je trouve que c'est très poétique. Moi, je crois que c'est peut-être des amis ou des amoureux, et que c'est bien qu'ils soient ensemble. J'aimerais bien mourir comme ça, moi aussi. Dans un champ de maïs, accompagné de quelqu'un que j'aime. Peut-être que l'artiste aussi, il veut mourir comme ça.
Feu.
Hi.
Nar.
Fire.
Fuoco.
Grac.
N'ayez pas peur de jouer avec le feu.
Essence FM.
Essence FM, la radio qui met le feu.
La radio qui met le feu.
La radio qui embrase.
Qui embrase ?
Non, qui embrase !
Le soir, quand le moko ferme, les lucioles
vont voir les autres œuvres et se comparer à elles.
Le soir, quand le moko ferme,
les lucioles
dansent avec les œuvres en éclairant leur beauté.
Le soir, quand le moko ferme,
les lucioles
éclaircissent le côté obscur des gravures.
Se demandent pourquoi elles sont attachées alors qu'elles savent voler.
Le soir, quand le moko ferme, les lucioles
sortent la nuit pour donner de la lumière.
Veille à ce que les œuvres de l'exposition se reposent avant de passer aux nouvelles journées à se laisser regarder par les visiteurs.
Les lucioles
font des réunions secrètes pour lutter contre le changement climatique.
Surtout que si c'est leur dernier été, c'est pas le moment de chômer.
Le soir, quand le moko ferme, les lucioles sont les lumières au bout du tunnel.
Font une barbecue party.
Quand le moko dort, les lucioles dansent.
Air,
haute,
aria,
cookie.
Le vent se lève, il est grand temps de rallumer les étoiles.
Laissez-vous impressionner par la puissance de l'air.
Quand je suis rentré dans la salle avec les animaux, ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est qu'ils sont très réalistes. Les animaux sont très bien faits, et la taille des œuvres est impressionnante aussi. J'ai choisi de vous parler plus particulièrement du taureau qui est à l'entrée, du lapin et de l'astronaute qui est au milieu de la pièce. Ce que j'ai vu tout de suite en regardant le taureau, ce sont ses yeux qui sortent de leur orbite. Et on voit du sang. On dirait un vrai taureau. Tous les détails sont très réalistes. Le taureau, on dirait, il est en train de mourir. Le lapin, lui, il est mort comme ça, les yeux ouverts. Quand on regarde ce lapin, on ressent la peur. L'astronaute, lui, me fait penser à un squelette. On dirait qu'il est dans un état de décomposition. On ne sait pas s'il est dans l'eau ou dans le cosmos. Dans cette salle, on dirait que la mort est présente. Les corps sont comme momifiés. On voit le temps qui passe. On a l'impression que les animaux sont là depuis très longtemps. J'aime bien être dans cette salle. C'est un peu comme un musée des animaux, non ?
Parmi tous les animaux impressionnants de la salle de l'air, j'ai choisi la lionne. Vous la voyez avec son regard serein et assuré, au milieu du coq et du serpent. Elle représente le signe astrologique du lion. Cependant, c'est une lionne, car selon l'auteur, il y a déjà assez de lions dans ce monde. En haut de sa tête, on peut voir un scarabée. Selon la mythologie égyptienne, il est symbole de bonne fortune et de renaissance. J'ai choisi cette œuvre car, selon moi, les autres animaux ont l'air soit menaçants, soit apeurés. Mais la lionne, elle, a l'air calme et semble vouloir rassurer les autres animaux.
Éléments FM.
Éléments FM.
Éléments FM.
Vous êtes plutôt terre,
air, en
eau, feu,
voire éther.
Restez avec nous pour connaître la réponse.
Appelez le 034
00
850 euros la minute.
La cinquième essence.
Éther.
Ether.
Éthère.
Éthélu.
Yéther.
L-S-E-R-O.
Découvrez une nouvelle dimension de ce que l'on sait.
Alors, on reste dans cette petite salle et après, en sortant, on passera par là. Mais il y a les mêmes œuvres.
Anna, médiatrice.
Il y a une gravure sur le mur, il y a des œuvres en verre accrochées au mur. Et ici, il y a cette sculpture au milieu.
Ce qui m'a attirée dans cette salle, c'est l'astronaute. La sphère en verre qui englobe sa tête agrandit énormément la taille originale de l'objet, qui n'est pas plus grande qu'une olive. L'artiste s'est inspiré de l'élément de l'éther. Et il imagine que quand on parle de ce dernier, on ne le voit plus. D'où l'utilisation du verre pour cette salle. Une matière qu'on peut voir, mais qui est très translucide et parfois invisible si l'on ne fait pas assez attention.
Dans l'alchimie, l'éther, c'est la matière qui remplit l'univers. On ne sait pas vraiment si elle existe ou pas. Et quand on a demandé à l'artiste de la définir, parce que comme il a décidé de travailler sur l'éther, c'est que peut-être il avait en tête une manière particulière pour en parler, il nous a dit qu'il ne fallait pas trop en parler, parce que dès qu'on en parle, elle disparaît.
Ce que j'ai beaucoup aimé chez l'astronaute, c'est sa combinaison argentée, assortie à ce qu'on pourrait croire être sa fusée ou sa pyramide, qui le protège de l'extérieur. Mais il semble malgré tout conscient de ce qui l'entoure. Il nous voit arriver et il a l'air d'avoir la tête dans les étoiles. Ça m'a fait penser à moi. Quand je sors, je suis toujours avec mon casque, à écouter de la musique. Je vois toujours ce qui m'entoure, mais je suis dans ma bulle, un peu comme lui. Le reste de l'exploration se base sur la création de la vie grâce à l'éther. On voit ce qui pourrait être des cellules se former. Le processus de mitose via le verre. Ça laisse penser qu'une partie de notre existence vient de ce cinquième et dernier élément, l'éther.
Si l'éther remplit vraiment l'univers, tout ce dont on a parlé dans l'exposition prend son point de départ ici. Donc à partir de là, c'est un peu comme si cette grande énergie peut-être dégagée par l'alchimiste astronaute qui permet à tout le reste d'exister.
Du coup, en fait, on voit sur les gravures la connexion qu'il y a justement, par exemple, avec les algues, la mer, le soleil, l'astronaute, et tout se rejoint, en fait, dans les gravures, sur les œuvres précédentes, ainsi que les animaux, qu'on a vu dans la salle où il y avait beaucoup d'animaux. Et oui, c'est la conclusion, c'est justement le conscient et l'inconscient, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, ce qui nous fait peur et ce qui nous fait pas peur. Ouais, c'est vraiment la conclusion, en fait, qui est enveloppé justement par tout ce qu'on a vu, l'eau, l'air, les vagues, les animaux, tout, et l'humain, à la fois.
Partez pas tout de suite.
On a encore une interview à vous faire écouter.
C'est Caroline Chabran, que vous avez déjà entendue.
La commissaire d'exposition qui répond à nos questions.
Alors bonjour. On est un groupe de jeunes qui a visité l'exposition Le Cinquième Sens, la cinquième essence, pardonnez-moi. Et on prépare un audio guide pour cette dernière. Et on a quelques questions à vous poser.
Où va-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Caroline Chabran, je suis la commissaire de l'exposition La Cinquième Essence, Jean-Marie Apriot.
Et du coup, c'est quoi le métier de curatrice ?
Curatrice ou commissaire d'exposition, ça veut dire que je définis et j'organise l'exposition. Donc, dans le sens de définition, c'est moi qui choisis le ou les artistes, qui choisis le ou les œuvres, qui crée un thème pour regrouper toutes ces œuvres d'une manière logique. Et ensuite, il y a toute la partie production avec comment on fait venir ces œuvres, comment on les installe avec plein d'autres gens. On a une équipe. Et ensuite, comment on en crée une médiation.
Alors, avez-vous toujours voulu être curatrice d'exposition ?
Non, pas toujours. Au début, je voulais être commissaire-priseur. Je pensais que c'était super cool de vendre des œuvres. Sauf que commissaire-priseur, tu vends aussi des lavabos et des chaises. Et je me suis rendu compte que je voulais pas vendre les œuvres, mais les diffuser au plus grand nombre. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose dans l'art contemporain. Au début, j'ai commencé par la médiation. Je parlais des œuvres Et puis au fur et à mesure, j'ai fait un peu de technique, puis j'ai vu que ça me plaisait. Et puis à force d'expérience, puisque maintenant j'ai 40 ans, j'ai 15 ans d'expérience dans l'art contemporain, eh bien je gère mes propres projets. Donc je suis devenue curatrice d'exposition, au sens noble du terme.
Comment vous choisissez l'ordre des éléments et des œuvres ?
Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup discuté avec l'artiste, comme c'est une exposition monographique. On a la chance de pouvoir beaucoup échanger, donc j'ai proposé le projet des 5 éléments à Jean-Marie. Et ça lui plaisait bien dans l'idée parce que ça reprenait bien tout l'historique de sa pratique. On va prendre des œuvres plus anciennes, donc ça permettait de mixer une idée avec la réalité. Et ensuite, en discutant avec l'artiste, il nous a proposé plein de nouvelles œuvres que j'ai pas choisies. On a accepté un principe, notamment sur les signes du zodiaque. Et quand elles sont arrivées, c'était un peu Noël pour moi. Et ensuite, il a fallu les installer et elles étaient super lourdes. Alors, c'était beaucoup moins Noël pour les monteurs. Mais ça a rendu ce projet super, en fait.
Et comment vous faites pour faire venir les grandes œuvres qui sont très lourdes ?
On galère un peu parce que, comme vous le voyez, on est en centre-ville. Donc, pour parler un peu technique, nous, on ne peut pas faire venir, comme on pourrait l'imaginer, les œuvres dans un énorme camion. Et donc là, techniquement, déjà, il faut demander au transporteur, avec lequel on discute beaucoup, de venir qu'avec un camion qui fait max 20 mètres cubes, qui a un haillon, pour permettre, ça c'est hyper important, pour éviter de galérer à porter 600 kilos pour le sortir du camion, c'est pas très possible. Et en plus des mains des monteurs qui sont magiques, on utilise aussi des outils comme des transpales courts et longs, et des portiques de levage qui nous permettent de déplacer les œuvres en conséquence. Et puis on a des roulettes, beaucoup aussi, un peu partout. Mais c'est surtout l'intelligence humaine qui crée tout ça. Mes collègues de la technique qui s'occupent de tout ça.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On espère pouvoir refaire un tour et voir les prochaines expositions avec plaisir.
C'est gentil. Moi aussi, j'espère que je suis ravie que ça vous ait plu et que ça vous a inspiré. En fait, ça c'est super. Merci à vous.
Merci.
Cette émission était réalisée par
Fejane,
Nina,
Léa,
Asmik,
Raph,
Colombe,
Melvin
et Kassen.
On remercie Anna qui nous a fait découvrir l'exposition
La cinquième essence.
Caroline Chabran qui nous en a dévoilé les coulisses.
Charlotte et toute l'équipe du MOCO.
Sans oublier Audrey qui nous a obligés mais finalement on est super contents.
Christelle pour sa bienveillance.
Et ses croissants.
Et Célia pour son dynamisme et sa bonne humeur.
Et merci à vous de nous avoir écoutés.
Et n'oubliez pas d'appeler le 3400 pour savoir si vous êtes eau, terre, feu, air ou éther.